Vous allez nous parler aujourd'hui du monde du 19e siècle.
Exactement, avec Sylvain Venner, qui est le copilote d'une grande histoire collective.
Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
L'histoire du monde en 1850.
Un jour viendra le triomphe de l'organisation. L'industrie va transformer tout le vieux monde. Je vois partout des canaux, même entre les océans. Vous allez rectifier la géographie.
Sur son lit de mort, c'était en 1825, Saint-Simon, le réformateur, l'utopiste, promettait aux jeunes gens pâles d'impatience qui l'entouraient « L'industrie est l'avenir, et l'industrie, ce sont les échanges. Vous avez les outils techniques et financiers pour les organiser, vous aurez le pouvoir. » Nous allons nous porter dans cette émission une génération plus tard, au milieu du 19e siècle. Les Saint-Simoniens sont nombreux, d'ailleurs, dans les cercles influents du Second Empire, et leur chef historique, Enfantin, éprouve la fierté de la mission accomplie et déclare « Nous avons enlacé le globe de nos réseaux de fer, d'argent, de vapeur, d'électricité. » Mais si l'époque donne raison aux utopistes, c'est qu'elle était porteuse des forces et des désirs qu'ils avaient su déceler les premiers. C'est vrai, les distances se raccourcissent, les hommes vont de plus en plus vers les autres hommes. Faut-il en conclure que les grandes aventures manufacturières et commerciales remplaceront les campagnes militaires et que l'humanité s'achemine vers un état d'association? C'est ne pas voir que le raccourcissement des distances ne réduit pas nécessairement l'écart des temps. Les hommes ne vivent pas au même rythme selon qu'ils appartiennent à telle ère culturelle dans le monde, à telle catégorie dans la société. C'est un des paradoxes de l'histoire, les contemporains ne sont pas contemporains les uns des autres. Et autre paradoxe, les navires à vapeur, les chemins de fer servent à la fois à multiplier les contacts et à porter la guerre plus loin. À la fin de la période qui va nous occuper, en 1904, Coubertin utilise le premier le mot mondialisation, mais en 1914, alors couvre le canal de Panama, le même mois, c'est le début de la Grande Guerre.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Sylvain Venner, bonjour.
Bonjour.
Alors, non content de mener une œuvre protéiforme qui touche à la fiction, à la bande dessinée, bientôt, vous avez, avec votre compère Pierre Saint-Garavelou, fait le pari d'un ouvrage collectif, Histoire du monde au 19e siècle, chez Fayard. Enfin, il faut dire que vous êtes habitué, vous êtes rodé, vous avez participé à l'histoire mondiale de la France de Boucheron, des dizaines de milliers d'exemplaires, des chiffres inouïs maintenant, jusqu'à l'édition d'Histoire. C'est un peu la même chose, vous dit-on partout.
Eh bien, on l'espère. On espère en tout cas que ce sera la même chose pour le nombre de ventes. Là où il y a une petite différence, c'est que ce livre Histoire du monde au 19e siècle, ça fait 8 ans. Qu'on est dessus. C'est un chantier qui a été lancé, non pas d'ailleurs en relation avec l'histoire mondiale de la France qui n'existait pas, mais plutôt en relation avec l'histoire du monde au XVe siècle que le même Patrick Boucheron avait dirigé également chez Fayard en 2009.
Quand même, il y a une facilité. Je sais que c'est difficile de faire des livres à deux. C'est encore plus difficile de faire des livres à combien êtes-vous ?
90, je crois.
Mais enfin, y a une facilité. Vous avez confié l'essentiel à des historiens français ou francophones.
On en a confié une partie non négligeable à des historiens français et francophones, mais il y a tout de même une dizaine, une douzaine de collègues étrangers, des universités pour l'essentiel anglaises et américaines, allemandes également. On peut s'honorer par exemple d'être les premiers à avoir commandé un texte à Kenneth Pomerantz, le spécialiste de la Chine et le théoricien de la grande divergence entre la Chine et le Royaume-Uni à la fin du XVIIIe siècle. J'ajoute que il ne s'agit pas de nationalisme méthodologique, on ne veut pas vanter la recherche française, mais il se trouve que l'histoire globale, l'histoire monde, la world history, comme on le dit, elle est très marquée par son empreinte initiale anglo-américaine et que les travaux en général d'histoire monde méconnaissent la recherche universitaire française. C'est aussi un des objectifs du livre que de la faire connaître.
Alors vous distinguez une dizaine d'aires culturelles qui vont chacune sur leur ère, deux RE. Mais je ne vais pas faire de diffusionnisme hein, et en histoire de théorie du ruissellement, vous êtes quand même obligé de faire une très grande part à la Grande-Bretagne, puisque à la date à laquelle nous allons commencer, 1850, son empire représente 30 millions de kilomètres carrés, c'est la première banque du monde, etc., etc.
Oui, il y a une importance majeure du Royaume-Uni sur le monde au XIXe siècle. Il ne s'agit certainement pas de la nier. Il s'agit simplement de dire que quand, dans les années 1880, la Grande-Bretagne représente son immense empire avec de grandes taches rouges sur les cartes, ces taches rouges donnent le sentiment d'espaces qui sont totalement contrôlés par la Grande-Bretagne. Or, c'est pour une partie faux, pour une autre partie, il s'agit d'examiner les modalités de ce contrôle, pour une autre partie, il s'agit d'examiner les effets retours en Grande-Bretagne même de cette mainmise sur le monde colonial. Les choses sont un peu plus compliquées que ne le présentaient les cartes de la fin du 19e siècle.
C'est quand même à Londres, en 1851, qu'a lieu la première exposition universelle. Il y avait eu, par exemple, en France, des expositions industrielles nationales, mais là, c'est le monde entier qui doit tenir dans le Crystal Palace. Le Crystal Palace, essayons de nous le figurer, il y a beaucoup d'illustrations dans le livre. Il y a à l'entrée de l'exposition universelle, il y a une statue de Richard Cœur de Lion.
Une immense statue de Richard Cœur de Lion et à côté un énorme bloc de charbon.
Ah oui, mais alors un bloc de 14 tonnes, je crois, si je vous ai bien lu. Et le maître d'ouvrage, c'est le prince consort, l'époux de la reine Victoria. Le voici dans un téléfilm, Victoria et Albert, avec son maître d'œuvre.
Donc, vous avez vos arbres et votre exposition. Il y a ici assez de hauteur pour y contenir n'importe quel arbre du royaume.
Vous voulez dire que les arbres seront dans le bâtiment ?
Évidemment, autant que vous voulez. Une forêt, si ça vous chante. Vous avez à votre disposition ces acres de terre. Les structures métalliques seront préparées en usine. Elles arriveront en section et assemblées sur le site. L'ensemble représentera plus de 4500 tonnes d'acier. Et la même chose pour le verre. 293 655 vitres. Que pensez-vous de ça ? Les gouttières, à elles seules, totaliseront une longueur de 40 km. Oh, le monde n'aura jamais rien vu de tel.
Ah, déjà le culte en même temps que celui du progrès, du chiffre. Alors vous qui êtes un spécialiste du tourisme, il y avait des voyages de groupe ?
Il date précisément de cette époque-là.
Qu'est-ce qu'on voyait alors ? Qu'est-ce que les gens qui étaient passés par l'agence Cook voyaient ?
Alors l'agence Cook émerge vraiment en 1851, justement, comme agence de tourisme. Ils étaient censés, c'est pas mal fait d'ailleurs dans le film, ils étaient censés, en théorie, voir le monde. Et le monde dominé par l'Angleterre. Et le monde dominé par une Angleterre qui elle-même est l'élu de Dieu. S'il y a cet énorme bloc de charbon, c'est aussi pour manifester le fait que ce charbon, il se trouve sous le sol de la Grande-Bretagne, il ne se trouve pas ailleurs, et que donc c'est le signe d'une forme d'élection divine. Ça, c'est le discours qu'on pourrait dire publicitaire. C'est le discours du prince Albert. C'est cette idée qui d'ailleurs n'est pas fausse en 1851, que quand on va rassembler tous ces gens à Londres, 6 millions de visiteurs, hein, 6 millions de visiteurs en quelques semaines, il s'agit de quelque chose qu'on ne se représente plus très bien, parce qu'on vit, nous, dans cet âge de l'entertainment. Mais en 1851, on est au lendemain du printemps des peuples un peu partout en Europe, de l'agitation chartiste en Grande-Bretagne. Réunir autant de gens pour une démonstration absolument pacifique, ça n'était pas du tout garanti au moment de l'ouverture de l'exposition. Et après, derrière ce discours publicitaire et cette réussite incontestable, il y a le fait qu'en fait, il y a 22 pays représentés.
Et puis certains ont des produits qui sont étonnants. Les Russes, par exemple, dites-vous. Les produits russes paraissent de bonne qualité.
Et puis, les produits agricoles, oui, russes. Oui. Il y a une... Non, parce que dans cette exposition, on prime, évidemment, les produits qui sont représentés. D'une certaine façon, on pourrait dire, si on voulait faire à nouveau une forme de nationalisme, que le nombre de médailles obtenues par les produits français en 1851 est sans commune mesure avec le nombre de produits présentés, puisque l'essentiel des produits présentés était tout de même britannique.
Écoutez, un peu de nationalisme. Le nationalisme sert l'internationalisation. Les Français, eh ben, ce sont quand même les artisans du Canal de Suez. Ils s'y sont pris à deux fois, avec des Saint-Simoniens à chaque fois, les Saint-Simoniens du père Enfantin au début des années 1830, le même père Enfantin avec moine Saint-Simonien sous le Second Empire, c'est Lesseps qui lui a damé le pion. C'est un produit français quand même, Suez.
Oui, d'autant plus qu'il y a les Saint-Simoniens, mais c'est quelque chose dont on commence déjà à parler à l'époque du Premier Empire de Napoléon Ier. Oui, c'est un produit français, en tout cas pour ce qui est de la maître, enfin d'une maîtrise d'ouvrage.
Allez, le dernier cocorico, c'est promis, Pierre Ichac, le radio-reporter connu des années 50.
Tout d'abord, le canal de Suez commence dans l'eau. Il est ouvert à travers un lac. Puis bientôt, commence, généralement à la tombée de la nuit, la lente traversée d'une tranchée avec des balises vertes et rouges. De temps en temps, une gare, il y a 12 gares. Puis, on entre, devant Ismaïlia illuminé, dans le lac Timsa. On passe dans les lacs amers. Et au petit matin, le passager se trouve, brusquement, dans un autre paysage, celui de la mer Rouge, à Suez.
Et là, je vais vous faire passer, parce qu'il faut quand même qu'on comprenne qu'il y a des surprises dans cette émission et que l'histoire du monde de Saint-Garavelou et Sylvain Venner, ici présent, ne dit pas que des choses connues. Un morceau de David Bowie, que vous allez peut-être identifier, Sylvain Venner. Vous avez reconnu, vous êtes un bien meilleur connaisseur de David Bowie que moi.
Life on Mars.
Mars, mais qu'est-ce que Mars a à faire avec le canal de Suez? Ça, vous l'apprenez, chers auditeurs, dans le livre.
On l'apprend dans le livre, c'est une histoire qui en fait est assez connue, mais en 1877 démarre l'affaire des canaux de Mars à la suite des observations de Schiaparelli, le directeur de l'observatoire de Milan. On croit voir des canaux sur la planète Mars. S'il y a des canaux, c'est qu'il y a des gens pour les avoir creusés. Si ce sont des formes géométriques, c'est donc que ce sont des formes intelligentes. Ça lance la grande affaire de la vie sur Mars, dont il nous reste comme témoignage le roman de Wells, La guerre des mondes, qui est publié en 1898. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire des canaux de Mars, c'est que les canaux, ça n'est pas une invention ni du 19e siècle, ni de l'Europe. Il y a des canaux depuis bien longtemps en Chine, et le grand siècle des canaux, par exemple, en Grande-Bretagne, c'est le 18e siècle. Mais au 19e siècle, ce que exemplifie le canal de Suez, c'est qu'on a le sentiment que ces canaux vont couvrir la totalité de la planète Terre, mettre en relation l'ensemble de l'humanité, non seulement grâce aux canaux et aux barrages à aiguillettes, mais grâce aux navires à vapeur et à leur faible tirant d'eau qui permettent d'emprunter.
Mais c'est normal, parce que Mars ressemble à la Terre, et la Terre, dans l'esprit des hommes du 19e siècle, ressemble bien évidemment à l'homme, l'homme qui est fait de nerfs, de sang, de vaisseaux, de circulation.
Oui, il y a deux régimes de métaphores. On a le sentiment que si l'humanité est un immense corps, alors ses transports et ses communications, c'est le sang qui va permettre à l'humanité de vivre et de croître. Et puis un autre système métaphorique, et là qui est quand même propre au 19e siècle, qui est le sentiment que si on imagine un monde, et quand on imagine Mars en 1877, on le pense comme un monde, c'est-à-dire pas seulement comme de la matière, mais comme un lieu habité, à ce moment-là, ce monde, ce qui va le caractériser, c'est toutes ces figures qui sont si importantes au 19e siècle, le réseau, la ligne, le lacis, qui vont déterminer les représentations. En tout cas,
on n'a pas parlé du télégraphe. Du monde. On n'a pas parlé du télégraphe, Sylvain Venner. Vous rencontriez, comme nous, cette semaine, Pierre Cornu-Gentil, télégraphe de Sedan, la défaite de Napoléon III, la République en est proclamée d'autant plus vite le 4 septembre 1870, et le câble sous-marin.
Et le câble sous-marin, qui est cette invention extraordinaire, puisque quand on s'avise qu'on peut entourer les câbles de gutta-percha et puis tenter de faire passer le câble télégraphique, d'abord à travers la Manche, et puis ensuite à travers l'Atlantique, et puis ensuite en 1902 à travers le Pacifique. On ne se représente pas très très bien la révolution que ça a été. Vous savez qu'il y a un petit livre de Stefan Zweig qui s'appelle « Les grandes heures de l'humanité », dans lequel Zweig compte 12 dates seulement. Je ne pourrais pas vous les donner les 12 d'ailleurs, mais je me souviens très bien qu'il y a celle de 1865 que Zweig intitule La première fois où un mot a franchi l'océan, le moment où on est parvenu, grâce au plus gros paquebot du monde à l'époque, hein, le Great Eastern, à installer le câble sous-marin entre les îles britanniques et le nord-est des États-Unis.
Cocorico, le premier câble calé Douvres, c'est aux dates auxquelles nous commençons, 1852. Et le chemin de fer?
Ah ben c'est on en fait assez volontiers le symbole même du 19e siècle. Au moment où on réfléchit un petit peu, là, au milieu du 19e siècle, quand Flaubert est en train de penser à l'éducation sentimentale et qu'il cherche à se représenter ce que peut être le monde, il imagine une locomotive qui franchit une forêt vierge avec le Christ au volant. C'est ça le symbole du siècle d'une certaine façon, même si il faut être extrêmement mesuré, parce que ce chemin de fer, on l'a pas dans tous les lieux du monde. Il y a des tas de lignes de chemin de fer qui sont installées et qui visent bien davantage la performance que l'efficacité et qui finissent par être abandonnées. On a pu faire des calculs pour se demander, par exemple aux États-Unis, la plus grande concentration de lignes de chemin de fer du monde au 19e siècle, ce que aurait été dans une perspective contrefactuelle qui plaît beaucoup à Pierre Saint-Garavelous, qu'aurait été la croissance des États-Unis sans le chemin de fer. On s'aperçoit que finalement, si on avait remplacé le chemin de fer par des canaux, le chiffre du produit intérieur brut américain aurait été en 1891 ou 92 celui de 1890, donc ça ne change pas grand-chose.
Et le bison, en tout cas, en aurait été content. Ici, la conquête de l'Ouest, telle que contée par le film d'Attaway.
Hey, lieutenant! On vient de m'informer que les Indiens préparent quelque chose. Vous savez ce qu'ils veulent? Le chef dit que le chemin de fer n'a pas respecté ses engagements. Ils ont changé le tracé et font passer la ligne à travers les terrains de chasse.
Vous êtes sûr que le chef dit vrai?
Absolument sûr. Les Indiens ont déjà leur peinture de guerre.
Vous ne pouvez pas prétendre de bonne foi que cette petite déviation du tracé va priver ces Indiens de malheur d'un seul bison.
Monsieur...
Ils ne perdront même pas un lapin.
Monsieur King.
Il faut leur faire voir les choses d'une autre façon. On ne leur fait aucun mal. Qu'est-ce que c'est pour eux, un chemin de fer? Deux rails et un sifflet.
Ce ne sont pas les rails qui les effraient. C'est ce que les rails apportent. Tous les blancs qui vont venir chasser les bisons et les massacrer. Et aussi tous les colons qui viendront.
Ah, le point de vue du bison. Oui, il ne peut pas y avoir une histoire du monde au 19e siècle faite aujourd'hui par des historiens modernes sans qu'on ne prenne en compte le point de vue des animaux, parce qu'ils ont eux aussi des yeux pour observer le monde.
Le point de vue des animaux, si on pense aux bisons, le 19e siècle, c'est le siècle de leur extermination de masse. Si on pense aux lapins, dont il est question aussi dans l'extrait, c'est le siècle de la colonisation de l'Australie. Mais pas que le point de vue des bisons, le point de vue du climat, le point de vue de... ce qui est intéressant dans l'échelle du monde, c'est ça n'est pas tellement de proposer un discours global sur l'histoire, sur le mode de ce qu'on appelle parfois la big history, à coup de séries statistiques, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que toutes nos expériences, elles prennent sens différemment en fonction des échelles d'interprétation. Le monde propose une échelle d'interprétation maximale, mais qui invite à penser également les échelles régionales, les échelles nationales et surtout les échelles locales. D'une certaine façon, lire une histoire du monde, c'est commencer par faire un pas de côté par rapport à un enseignement de l'histoire qui, pendant deux siècles, s'est enfermé dans le cadre des États-nations. Un cadre qui a été dépassé par l'histoire comparée entre les États-nations, ou par l'histoire des associations d'États-nations. On peut faire une histoire comme ça de la construction européenne. Mais on en reste à une échelle qui est une échelle nationale. L'histoire du monde, ce qu'elle invite à faire, c'est à donner du sens à toutes les autres échelles que la seule échelle nationale.
Mais ce que vous critiquez particulièrement dans les histoires universelles construites sur l'idée d'État-nation, c'est qu'il y en aurait qui, au nom d'une évolution dans laquelle il serait plus avancé, diffuserait de manière univoque leur influence.
Oui, c'est-à-dire que quand Michelet écrit que ce n'est pas trop de l'histoire du monde pour comprendre l'histoire de France, c'est parce qu'il imagine, lui, dans les années 1830, que la France est le nouveau phare du monde, après Rome, après la Grèce, après l'Égypte, après l'Inde. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il peut y avoir des évolutions très différenciées selon les lieux du monde, et que, et ça c'est une interrogation très actuelle, c'est une interrogation des historiens d'aujourd'hui, il peut exister, ou une interrogation même morale, il peut exister des modernités alternatives à ce que on a pris l'habitude d'appeler depuis le 19e siècle la modernité à la Saint-Simon, ce dont il était question au début, c'est-à-dire l'industrie, la croissance économique, et de s'imaginer, par exemple, que les efforts qui sont faits par les royaumes Soto et Barolong au XIXe siècle pour abolir la peine de mort peuvent être aussi considérés comme une modernité alternative par rapport aux sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, et où on a un peu tendance à penser, je pense, en tout cas dans pas mal de pays du monde, que l'abolition de la peine de mort est un progrès.
Alors dites-moi, il y a une grande partie consacrée aux objets. On va commencer en parlant de l'ivoire. Vous allez nous expliquer, après l'avoir écouté religieusement comme il convient, en quoi une pianiste japonaise, c'est Yunko Okazaki. Elle joue ici la mazurka numéro 34 de Chopin, 1843-1844, c'est notre époque. En quoi cet exemple illustre la mondialisation telle que vous la décrivez ? Une œuvre occidentale jouée par une pianiste japonaise avec l'air Meiji dans les années 1860. Le piano s'introduit à une vitesse vertigineuse au Japon. Il est obligatoire dans les écoles normales d'instituteurs. Aujourd'hui, le piano avec ses touches d'ivoire, c'est très important dans l'industrie japonaise. Ce sont les premiers producteurs de piano. En Inde, autre ère culturelle, en revanche, résistance au nom des musiques traditionnelles face aux musiques occidentales.
Oui, l'originalité de l'approche par les objets, dans le cadre de cette partie du livre qu'on appelait le magasin du 19e siècle, c'est de penser un petit peu différemment les systèmes, les phénomènes de circulation culturelle. Parce que là, par exemple, on pourrait parler de Chopin, ce Polonais qui fait une carrière internationale à travers toute l'Europe, en jouant des auteurs qui eux-mêmes, au départ, peuvent venir d'un petit peu partout, dans énormément de lieux. Si on se concentre plutôt sur le piano, on pourra effectivement parler de la façon dont cet instrument très typique du 19e siècle se diffuse dans les saloons de l'Amérique du Nord ou dans les salons du Japon. Mais si on se concentre sur l'objet ivoire, est nécessaire pour fabriquer les touches de piano, nécessaire pour fabriquer les boules de billard, à une époque où le billard tend à se démocratiser au 19e siècle, à ce moment-là, on se retrouve à penser un monde extrêmement différent, puisque si on veut cet ivoire, il faut abattre des éléphants, ou des morses, ou des rhinocéros, mais enfin surtout des éléphants. Et ça va permettre de mettre en place assez rapidement au XIXe siècle, dans l'Afrique australe et surtout dans l'Afrique de l'Est, des systèmes nouveaux, en quelque sorte, c'est ce qu'Henri Médard explique bien dans l'article sur l'ivoire dans notre livre, qui avant même le moment de la colonisation européenne en Afrique, vont transformer radicalement les sociétés locales en créant des bandes de chasseurs d'éléphants qui elles-mêmes vont fournir ensuite l'armature de différentes armées. On peut penser par exemple à l'armée Zoulou en Afrique du Sud et jouer un rôle que Henri Médard juge décisif dans ce qu'il appelle le phénomène de despotisation des sociétés africaines, comme il le dit dans une formule percutante dans son article, c'est le goût pour Brahms qui conduit à la colonisation.
Enfin, on pourrait dire aussi, alors d'une façon plus classique, que les échanges entre l'Afrique et l'Europe se sont développés d'une manière que moi je ne soupçonnais pas dès la première moitié du 19e siècle. Vous expliquez néanmoins, même si vous insistez sur les échanges, que ce qui est tout à fait important, c'est l'écart des temps, la puissance d'indifférence d'un certain nombre de groupes sociaux ou d'aires culturelles par rapport à la mobilité ambiante généralisée.
Oui, c'est-à-dire que ce à quoi il faut faire très très attention, c'est que à bien des égards en histoire, le monde c'est une illusion rétrospective. C'est-à-dire que nous, c'est l'échelle à partir de laquelle on essaye de comprendre un certain nombre de phénomènes et de faits qui ont influé sur la vie d'énormément d'acteurs par ces phénomènes de circulation et notamment de circulation d'objets et de matières premières. Mais il ne faut pas méconnaître l'immense indifférence que pouvait susciter le monde au XIXe siècle, et pour le coup, il faut sortir un petit peu du schéma des aires culturelles, parce que sinon on risque de retomber encore dans des modèles qu'on peut appeler diffusionnistes, mais en fait qui sont essentiellement des modèles méprisants. Il faut imaginer que à l'intérieur même de l'Europe, que les Européens, que les élites européennes du XIXe siècle nous ont appris à penser comme étant à l'avant-garde de la civilisation, il y a une immense indifférence pour l'existence du monde.
Alors, une partie est consacrée à la chronologie. Je voudrais qu'on insiste pour finir sur son importance. Je vous lis la chronologie telle que vous la présentez dans vos premières pages. 1851, donc, l'exposition universelle de Londres. 1857, la reine Rani Lakshmi Bai est tuée lors de la révolte des Sipai. 1860, l'horloger Roscoff commercialise la montre prolétaire. 1868, au Sierra Leone est publié, un Sierra Leonais publie un livre sur les revendications de la race africaine. 1869, les femmes du Yao Ming, j'ai jamais su prononcer, obtiennent le droit de vote, etc., etc. C'est fascinant quand on a une chronologie qui nous est présentée comme ça, c'est très évocateur. Mais qui fait la chronologie? Elle oriente la pensée.
Oui, c'est un énorme problème qu'on va pas résoudre là, mais en deux mots, il faut dire que cette chronologie-là, c'est une chronologie fantaisiste qu'on met en place au début du livre pour mieux montrer le chatoiement du 19e siècle dès lors qu'on se place à l'échelle du monde. Il n'empêche qu'une fois qu'on a dit ça, il s'agit tout de même aussi de proposer des dates qui soient des repères qui permettent d'essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer au 19e siècle. Dans la partie chronologie, on s'est aperçu que finalement, on allait retrouver des dates qui étaient des dates assez classiques, des dates que tous les auditeurs connaissent, mais dont on essaie de montrer ce que change le fait de les interpréter à l'échelle du monde.
Merci à vous. Avec Pierre Saint-Garavelou, vous présentez aujourd'hui l'histoire du monde au 19e siècle. Ce sera à 19h, au bon soin d'Emmanuel Laurentin, notre excellent confrère, à la Petite Égypte. La Petite Égypte, c'est le nom qui convient quand on a évoqué Suez, c'est rue des Petits Carreaux. C'est pour les auditeurs parisiens, c'est dans le 2e arrondissement de la capitale. Patrick Henry à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation et la préparation, Lincoln Egulesco, Franck Olivard et Frédéric Martin.